Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est votre Énervé, la suite France Inter plus de Toulouse-Lautrec, au moment même où le Grand Palais à Paris lui consacre une rétrospective. Toulouse-Lautrec reste le peintre des cabarets, de la nuit, de la prostitution, de Montmartre, une dimension pittoresque qui masque parfois le fait qu'il fut un précurseur des mouvements d'avant-garde du XXe siècle comme le futurisme. C'est un post-impressionniste, un illustrateur de l'art nouveau, un lithographe et un affichiste de génie. Le 11 septembre 1951 sur la RTF, Georges Léon revient sur ses dimensions, le tout avec une éloquence très années 50. Alors, plus de Toulouse-Lautrec, soirée affichage sur France Inter.
Dessinateur depuis sa plus tendre enfance, remplissant des cahiers de croquis où des gens pouvaient remarquer son caractère, Lautrec, à 17 ans, peignait les charrettes anglaises, les chevaux, les écuries et les chiens courants du comte son père. En 1883, il passa une année dans l'atelier de Cormont, où son talent se manifesta par l'influence de Degas. Certains portraits de femmes, comme par exemple celui de Berthe la Sourde, se ressentent des tons impressionnistes. Mais Lautrec varie ses coloris, cherche des effets favorables à son talent cinglant, crée une nouvelle manière, hardie et nerveuse. Ses premiers tableaux, portraits de dames, le promenoir, les femmes qui dansent, attablés, etc., ont beaucoup de succès et affirment son genre. Son gibier préféré, dit le peintre Domergue, c'est l'être humain. Il ne l'attire pas chez lui, il le laisse en liberté, mais il le peint dans son milieu afin qu'il reste naturel. Il est curieux de tout, de l'homme du monde, de l'acteur, du clown, de la danseuse, de la fille. Il indique le corps d'un cerne à l'essence, comme s'il s'agissait de l'accessoire. Tous ses soins vont au visage. Pour le déchiffrer, il use, dirait-on, du microscope, grâce auquel il fait surgir peu à peu de son enveloppe pour nous l'offrir vivante, sous son crayon ou sous ses brosses.
Vous écoutez Le Énervé, la suite France Inter plus de Toulouse-Lautrec ce soir et toujours sur la radio-télévision française le 21 juillet 1959. Francis Nathier Natousson examine les relations et les influences entre Toulouse-Lautrec et les autres peintres de son époque, notamment Van Gogh.
Deux grands peintres encore, en dehors de Vuillard, de Charles Morin ou d'Anquetin, ont agi sur Lautrec de façon assez marquée. Le premier est Vincent Van Gogh, le deuxième, Pierre Bonnard. C'est par son ami Joyan que Lautrec fut mis en relation avec Van Gogh. Lautrec est surpris, puis attiré par Vincent. Van Gogh a 10 ans de plus que lui. À 30 ans, c'est un vieux. La rencontre eut lieu chez les éditeurs d'art Goupil. Il s'est trouvé que le frère de Vincent, ce Théo, dont on sait de quelle affection tendre il entourait son cadet, était vendeur aux éditions Goupil. Ce qui les a tout de suite rapprochés, ce n'est pas seulement que Van Gogh, qui rit peu, n'a même jamais souri des proportions de son camarade. Avec son sérieux, il a seulement observé ce qu'elles sont. Ce voyant qui invente sa façon de faire vibrer les objets à la lumière, a discerné dans son cadet l'énergie qui boue. Il le sent capable d'aimer son métier avec un désintéressement dont l'apôtre goûte la pureté. À la fraîcheur de son ingénuité, Lautrec aussi est sensible. Les propos du Hollandais ont de quoi l'attirer avec leur accent nouveau. Ce langage, en dépit de sa placidité, s'enflamme. Lautrec l'écoute parler. Le plus souvent, c'est ce qu'il évoque de la Hollande, encore plus du borinage dont il a vécu. Ce borinage auquel il n'a consenti qu'après des années à s'arracher. Van Gogh explique l'âme du mineur, ce que c'est que l'âme des pauvres et ce qu'a été l'apostolat qui a failli l'enlever à la peinture. Cette conviction religieuse qui devait survivre à sa foi, la façon en particulier dont il parle de Jésus aurait, semble-t-il, parfois éveillé en Lautrec les échos lointains d'une ardeur dont en terre albigeoise il avait entendu parler. Lautrec ne regarde pas moins attentivement tout ce que Van Gogh lui montre. Il écoute et, tout en reniflant, regarde. Chaque fois que son horizon s'élargit, il bat des mains. Il existe un portrait de Van Gogh par Lautrec, un pastel. C'est un débutant qui a 20 ans. L'artisan né pour sculpter les images qu'il décide de découper dans le monde. Le pastel a pu s'effacer, mais la vigueur des contours de la tête reste intacte. Elle s'apparente au bois des chaises et des tables que l'on retrouve dans les natures mortes et les intérieurs de Van Gogh. De profil, le portrait ne traduit presque rien de cet œil de Vincent, ni de sa couleur qui avait la qualité de solidité des pétales de ses fleurs. Cependant, combien dans sa timidité, l'ébauche, qui paraît avoir déteint, demeure une apparition émouvante. Je ne pense pas qu'il existe de portrait, même de croquis de Lautrec, par Van Gogh, et il n'y a pas lieu du tout d'imaginer l'action de Van Gogh sur la peinture de Lautrec. Mais on pourrait parler de celle de Degas que Lautrec continue, s'il ne la dépasse, car il s'agit de l'un à l'autre de vocabulaire de même famille. Ni les iris, ni les soleils qu'a orné la volonté de Vincent et qui ornaient la tombe du peintre maudit ne reviennent dans l'œuvre de Lautrec. Nulle filiation non plus des personnages de Vincent à aucune des figures de Lautrec. Malgré la distance où ils sont, si différents qu'ils soient, Van Gogh a pu agir en profondeur puisqu'il a fait réfléchir son cadet. La rencontre que Lautrec a faite de Vincent entre l'atelier de Bonnat et celui de Cormon pourrait nous inciter à évoquer celle que fit Diogène de l'enfant qui buvait dans le creux de sa main. Le départ de Van Gogh, pour le midi, sépara les deux amis qui ne devaient plus se revoir. Les rapports de Lautrec et de Bonnard ont beaucoup plus d'importance. Ils datent de 1891. C'est en 1891 que Lautrec aperçut sur un mur l'affiche de Bonnard France Champagne. Ce fut un hasard heureux. L'on n'en a pas collé tant et Bonnard avoua qu'il avait eu lui-même beaucoup de mal à la découvrir. Cette France Champagne, la première affiche de Bonnard, qui a la blondeur et les roses du vin qu'elle vante, où se renverse une jeune femme souriante, épaules et bras nus, est ce que l'on a vu de plus neuf dans les rues depuis Chéret. L'invention a du coup bouleversé Lautrec. Il s'est planté devant, sur ses jambes torses, là, sans parler, désigné de son petit bout de canne. Elle l'occupe aussitôt assez pour qu'il demande à tout venant « Connaissez-vous Bonnard ?» Il n'a de cesse qu'il ne soit devant l'inventeur. Sa ténacité l'a toujours bien servi. Quiconque a le goût des affiches, de la litho en couleur, ne peut penser, sans un peu d'émotion, à la rencontre de Lautrec et de Bonnard. Lautrec a 27 ans. Bonnard en a 24. C'est avec une sorte de gourmandise, me disait Adéna Tanson, que je songe à cette journée où je vis Bonnard prendre par la main son nouvel ami Lautrec et le conduire à l'imprimerie en cours, où Lautrec trouvera tant des heures les plus affectueuses, les plus heureuses de sa vie. C'est dans cette imprimerie qu'opère le père Cotel. De ce père Cotel, Lautrec devait perpétuer sur la couverture de l'estampe originale un profil coiffé de la fameuse casquette graisseuse, instrument de travail incomparable, que celui-ci faisait passer sur les pierres en les frottant, moins qu'en les caressant de sa précieuse graisse. Si quelqu'un a eu le pouvoir de déchaîner la furie des forces tapies dans le cerveau de Lautrec, c'est Bonnard. Elles étaient en sommeil et il les a réveillées. Imaginer que Lautrec ait pu copier quoi que ce soit de Bonnard serait absurde. Lautrec, d'ailleurs, va beaucoup plus avant. Il s'adonne aussi presque entièrement, pendant quelques années, à un métier où il réussit magnifiquement. Au lieu que l'affiche ne tient dans l'œuvre, il est vrai, beaucoup plus considérable de Bonnard qu'une place assez réduite. Lautrec aimait trop passionnément son métier pour n'en pas écarter résolument tout souvenir d'un autre inventeur. Lui qui raffolait du croquis, renonçant à rien exprimer des spectacles qu'il disait trop beaux ou trop faits. Aller jusqu'au tréfonds d'une scène ou d'un tableau qu'il possède, c'est tout autre chose. Car c'est tout autre chose de regarder de si près que ce soit une peinture et ce dont elle est faite, ou de répéter une seule touche. Non, l'action de Bonnard est beaucoup plus efficace, assez pareille en un sens à celle de Van Gogh. Elle aussi a libéré Lautrec. Bonnard n'a pas appris à Lautrec à faire une affiche, mais certainement qu'il ne fallait se priver de rien y mettre, surtout de ce qui pourrait, à force de relief, forcer son action sur le passant. Bonnard n'a pas montré davantage à Lautrec à se servir d'une pierre. Il lui a montré à se servir de soi. Les amis, comme ceux dont il s'entichait, Lautrec a toujours tenté de les associer à son existence. Il a eu du premier jour une admiration très grande et lucide pour la peinture de Bonnard. De celle de Vuillard, dans le même temps, il lui arrivait de venir décrocher à l'atelier, qu'ils avaient eu au début en commun, des toiles ou des cartons, et de prendre une voiture pour aller les montrer aux marchands de sa connaissance, qu'il ne désespéra jamais de convaincre en dépit de ses insuccès. L'un et l'autre lui avaient de sa gentillesse beaucoup de reconnaissance. L'un et l'autre l'aimaient et l'admiraient. Ces deux peintres, dont l'apport dans la peinture de l'entre-deux siècles est important, ont libéré Lautrec. Ce que Lautrec doit à Van Gogh, mais surtout à Bonnard, est plus qu'un bel exemple. Pascal dit quelque part que les vrais honnêtes gens ne volent pas d'enseigne. Lautrec serait de ceux qui n'aiment jamais son dithyrambe et considèrent que rien n'est à eux qu'autant qu'ils peuvent le vanter. Ses amis lui appartiennent moins parce qu'il les vante que parce qu'il les instruit.
La voix chaude, profonde et écorchée de Céleste sur France Inter. Vous écoutez le Énervé, la suite France Inter plus de Toulouse-Lautrec ce soir. Alors le 13 février 2002 dans Inter 13-14, Denis Astagnaud reçoit Dina Vierny, ancien modèle de Matisse et fondatrice du musée Mayol. Elle était à l'époque l'une des plus grandes collectionneuses d'affiches de Toulouse-Lautrec.
De toutes les œuvres que j'ai collectionnées dans ma vie, et qui font l'objet du musée que j'ai ouvert à Paris, c'est avec Toulouse-Lautrec que j'ai décidé de vivre. J'ai donc vécu avec 5 affiches toute ma vie jusqu'à ce jour,
Pourquoi pas avec Bonnard ou avec Matisse?
Non, non, il y a une affiche de Bonnard superbe, donc très bien connu Bonnard, oui, puisque je suis un de ses personnages.
Bah oui.
Mais c'est avec Toulouse-Lautrec que j'ai décidé de vivre, avec 5 affiches, et qui ont fait ma joie jusqu'à ce jour.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attirait dans ce personnage?
D'abord, ce que je vois dans ces affiches les prémices de la modernité. Il a apporté la modernité, c'est certain, mais en plus, c'est l'ancêtre de l'affiche moderne. Car avant lui, on faisait, vous voulez que je vous donne un détail technique?
Oui.
On faisait la couleur sur une pierre et puis c'est fini. Lui, il a compris qu'on pouvait faire des couleurs sur plusieurs pierres lithographiques. Et il a donc réuni plusieurs pierres lithographiques et il a fait ce sublime affiche que nous connaissons. Et Toulouse-Lautrec, pour moi, est un grand précurseur, un peintre qui a su rendre son époque d'une façon fabuleuse. Il porte au bout de ses pinceaux le bonheur de vivre. Et ça, il nous a transmis ce qu'était à la fin la danse populaire. Parce que qu'est-ce que Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec va au Moulin de la Galette. C'est un café très important, enfin, et à la fois très simple, où vont danser les ouvriers et les petits bourgeois. Et ils dansent quoi? Le quadrille et la polka. Et ils boivent du vin sucré. Eh bien, là, tout à coup, il rencontre ce qui va devenir sa vedette essentielle. Il rencontre la Goulue. Et il suit la Goulue à travers toute sa vie et sa pérégrination. Et il a peint dans tous les états et partout, car ce sont des états que vous avez vus, différents.
Oui. Justement,
qui
vous parlez
très, très, très intéressant et qu'on ne voit jamais.
Vous parlez de femmes, justement.
Non, je parle des affiches.
Des affiches.
Mais... Ah, les femmes, il a aimé les femmes. Le pauvre Toulouse-Lautrec était un abo. Et ce n'était pas un nain, contrairement à ce que l'on pense, pas du tout. C'était le résultat de beaucoup de mariages consanguins. Il est d'une très grande famille, un des plus grands noms de France. Et aussi, c'est aussi l'objet d'un accident. Qu'il eut dans son enfance.
C'est cassé les deux
familles. Et ouais. C'est un enfant qui a cessé de grandir. Mais qui est devenu un homme.
Oui, et qui a beaucoup aimé les femmes, passionnément.
Bah, naturellement, il adorait les femmes, et il les aimait probablement très bien. Mais les femmes ne l'aimaient pas, elles se moquaient de lui.
C'est pour ça qu'il a terminé alcoolique.
Il était vilain, il était petit et barbu. Il disait lui-même, je ressemble à une cafetière. Moi, je sais des choses de lui à travers Pierre Bonnard, qui a fait des affiches avec lui.
Ils sont rencontrés.
Il m'est familier à travers cet autre grand artiste.
Mais finalement, la première affiche de Toulouse-Lautrec, celle qui date de 1891, celle qui le lance, qui le rend célèbre, finalement, parce que ces tableaux étaient connus des amateurs, mais ces affiches vont être connues du peuple entier. Enfin,
je vais vous dire, à l'époque, on aimait l'affiche, plus que notre époque.
Voilà, c'est ça, bien sûr.
L'affiche était très populaire. Elle était partout. On exposait les affiches. Et on aimait l'affiche à une grande majorité. Vous savez, maintenant, l'affiche est devenue mineure. À l'époque, non.
Mm-hmm. Et
il s'est penché sur
les affiches de Toulouse-Lautrec des murs.
Pardon ?
On arrachait les affiches de Toulouse-Lautrec des murs.
Oui, parce qu'elles ont tout de suite
pour les collectionner.
Que voulez-vous, il transmettait le chahut la grande danse extraordinaire et érotique qu'il a voulu nous transmettre. C'est beau.
Le chahut, c'est l'ancêtre du French Cancan, c'est ce que
c'est
nous avait dit Jérôme Savary lundi dans ce journal. Alors bon, finalement, donc cette première affiche, c'est celle de la Goulue. C'est une des seules d'ailleurs où il représente la Goulue. Après, il représentera beaucoup.
Il représente pas la Goulue une autre fois, je pense pas.
Voilà.
Mais il y a des dessins de la Goulue
oui.
et
alors,
des essais.
Là, c'est une affiche de la Goulue.
Mais vous savez, il représente
et de Valentin
chaque fois
des essais pour le Moulin Rouge, c'est ça.
Voilà.
Et avec une perspective tout à fait.
Le Moulin Rouge, c'était aussi une institution extraordinaire et intéressante. C'était comme un grand cirque. Et là, le public avaient la possibilité d'avoir, après leur numéro, les jongleurs, les clowns, qui venaient s'asseoir avec eux. Et ils assistaient complètement à la danse, etc.
Sur toutes ces affiches qui sont présentées, laquelle vous préférez?
Moi, c'est la Goulue.
Et pourquoi?
Je ne sais pas. J'y trouve chaque soir un autre plaisir. Mais j'aime mes affiches. J'aime aussi beaucoup, beaucoup la revue Blanche et le divan japonais.
Le divan japonais, oui, avec donc Jeanne Avril au premier plan. Voilà. Alors, la plupart de ces affiches, les couleurs sont très simples. Hein. C'est noir, rouge et jaune.
Non, sont belles. Elles sont chatoyantes. Mais elles ne sont pas simples.
Non.
Elles vous paraissent
simples. Elles paraissent simples,
en vérité,
évidemment.
elles sont très étudiées.
Eh oui, bien sûr.
Mais elles sont justes. Et c'est la justesse de ces couleurs qui nous charme et qui nous transperce. Parce que l'affiche de Toulouse-Lautrec, ça impressionne. Et ça continue à impressionner.
Et c'est les noirs.
Il y a un public fou.
C'est les noirs. Il y a beaucoup de noirs, différents noirs dans ces.
Oui, mais le noir aussi.
C'est une vraie couleur chez lui. Hein.
Oui, mais il y a des couleurs tout à fait extraordinaires de la palette de ce peintre remarquable.
Et alors, il peut imprimer, il peut lithographier sur n'importe quoi. On voit, il y a une affiche justement du divan japonais imprimée sur du papier d'emballage de chocolat meunier.
Mais ça se faisait beaucoup. Ah bon. Ça, on dessinait sur du papier d'emballage aussi.
Et au dos, il fait sa caricature.
Oui. Vous savez, ce n'est pas tant uniquement l'affiche, c'est la transmission de la gaieté que cet homme si malheureux, il est mort en 37 ans, noyé par l'alcool et le chagrin d'être un abo. Eh bien, cet homme si malheureux a su transmettre le bonheur. Et c'est ça que les gens viennent chercher. Et ils ont raison.
Alors vous, Dina Vierny, je pense que vous n'êtes pas malheureuse, mais alors quelle vie que la vôtre hein. Vous êtes collectionneuse, érudite, vous êtes une érudite qui remonterait à André Malraux. À 17 ans, vous étiez révolutionnaire à Barcelone, pendant la guerre d'Espagne. À 22 ans, résistante, vous avez été arrêtée par la Gestapo. Vous avez connu De Gaulle, et Mitterrand, qui venait à votre galerie.
Oui.
Hein, il aimait bien certaines œuvres, caressait certaines statues, etc. Oui. Et puis vous avez couru le monde pour des causes et pour des conférences. Aujourd'hui, je ne vais pas dire votre âge, mais bon... Vous portez très bien. Qu'est-ce qui vous fait avancer ?
L'amour de la vie, la curiosité. Qu'est-ce que la curiosité et le désir ? C'est la vie. Et oui. Tant qu'on a envie de ressentir, de voir, eh bien, on vit et on peut vivre. Finalement, on peut vivre autant qu'on veut, à condition d'avoir une grande idée.
Soko Chup, le blues rock des Australiens de Teske Brothers sur France Inter. Et enfin, une dernière archive qui date du 20 août 2007. Emmanuel Kérad reçoit dans Escale Estivale Jean-Paul Morel, auteur de Toulouse-Lautrec en scène.
C'est la naissance du Montmartre mythique, c'est-à-dire la vie nocturne, l'ouverture du Moulin Rouge, alors que, disons justement, après la mort de Lautrec, c'est plus le Montmartre qu'il a connu lui-même.
Non, oui, c'est-à-dire vraiment... que lui, il dresse une sorte de portrait social et culturel de l'époque, au moment où il y est. Et ça fait la promotion du quartier et la promotion de ce qu'on appelait aussi le Paris canaille, avec tous les cabarets et tous les lieux de divertissement.
Oui, c'est-à-dire que c'est d'un seul coup le grand lieu de libération de la femme, on pourrait dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les...
De libération de la femme.
Oui, parce que ce sont des filles qui dansent le cancan. C'est des ouvrières, des modistes, comme on dit, qui vivent plus ou moins de prostitution, et qui du coup vont attirer toute la bourgeoisie, qui viennent voir comment ces dames se débrouillent pour vivre seules.
Mais elles se dénudent aussi, un peu, pour l'époque.
Oui et non, enfin au bal des Quasars, oui.
Oui, voilà, oui.
Mais sinon, elles sont obligées de, j'ai bien étudié la question, elles sont obligées de s'acheter leur froufrou, leur culotte, leur jupe.
Alors Toulouse-Lautrec va dans les bars, les cafés-concerts, les théâtres, les maisons closes, en fait tous les lieux qui évoquent le plaisir et le spectacle. Et ses dessins, il les expose justement dans ces lieux. C'est-à-dire que c'est pour lui une sorte de méthode alternative à celle des galeries à la Volard, par exemple. C'est une autre méthode pour se faire connaître.
Oui, lui, ce qui l'intéresse, c'est effectivement, c'est pas de faire de la peinture de chevalet pour exposer dans les musées. C'est soit une œuvre qui sera montrée. Bon, ce qu'il adore, il est connu pour ses affiches. Hein. À l'exposition, il y a les 30 affiches qu'il a faites. Ce qui l'intéresse, c'est pas la peinture en atelier. Bon. Par ailleurs, lui, ce qu'il aime, c'est la vie nocturne. Mais il prend ses modèles sur place, d'ailleurs. Il les fait venir éventuellement dans un petit jardin qu'il y avait derrière le Moulin Rouge.
Qu'est-ce qu'il fait dans ce petit jardin?
Alors, il les fait poser.
Ouais.
Il les fait c'est poser. Et,
c'est tout.
Sexuellement, il savait qu'il avait quelques problèmes. On a raconté beaucoup d'histoires. C'est un photographe de la peinture. C'est-à-dire que, moi j'ai fait l'expérience, lorsqu'on passe ses tableaux en couleur, quand on les met en noir et blanc sur scan, on a l'impression d'une photo. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire.
Il part avec de sacrés handicaps, effectivement. Et c'est le dessin qui lui permet de se renouveler, en tout cas de continuer à vivre, d'assumer sa condition.
Oui, il se lance dans le domaine de l'art contre la vie de ses parents. Ces accidents, effectivement, il est tombé de cheval 2 fois à 6 mois d'écart, et s'est pété une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite, et donc le bas ne s'est pas développé, le haut s'est développé, pas le bas. Relativement bien vécu son infirmité, il l'a assumé, quoi.
En même temps, il doit se réfugier quand même, puisqu'il produit en 10 ans 2400 dessins, en utilisant d'ailleurs toutes sortes de techniques, et il décide un jour de quitter Albi, puisqu'il est né à Albi, il part étudier les arts à Paris, il côtoie Van Gogh, Degas, et c'est là qu'il s'installe à Montmartre, en fait, et qu'il fréquente l'Élysée Montmartre, le Moulin de la Galette, le Mirliton, effectivement le Moulin Rouge.
Oui, il est allé assez vite. Il a fréquenté. Il est arrivé à Paris pour finir ses secondaires. Hein, résumons. Il est dans un atelier et très vite, c'est pas les études qui l'intéressent, c'est la vie parisienne. Alors évidemment, elle est contrôlée par son père, qui n'aime pas beaucoup le voir fréquenter le milieu montmartrois. Bon, je discute pas votre analyse sur l'origine aristocratique, mais enfin, l'histoire des comtes de Toulouse, on laisse ça à la famille. C'est faux, c'est un petit domaine à côté de Gaillac, c'est des petites aristocraties terriennes.
Qu'ils faisaient partie de la grande noblesse, quand même.
Descendants des comtes de Toulouse, non.
Les fameux comtes de Toulouse, très importants, d'ailleurs,
oui,
à l'époque.
Mais c'est pas du tout ça, c'est pas grave.
Toulouse-Lautrec devient un habitué hein, du Moulin Rouge. Il expose des œuvres dans ses lieux. Ça devient un peu sa galerie. Il assistait au spectacle et à force de voir ce genre de spectacle vivant, il capte des attitudes, des gestes. C'est-à-dire que ses dessins représentent vraiment des expressions prises sur le vif.
Oui, c'est ça qui est étonnant. C'est toujours un moment, qu'on prenne Yvette Guilbert, qu'on prenne... C'est... Un moment particulier, c'est pas des photos studio hardcore, enfin ou des peintures studio hardcore, c'est vraiment il les choisit un moment pour lui révélateur de la personnalité de la personne qui chante ou qui danse.
Et c'est ça qui le rapproche de la photo effectivement, qu'il pratiquait d'ailleurs hein, en amateur.
Oui, modestement, c'est-à-dire, il s'en servait pas. Degas utilisait la photo lui pour faire ses tableaux. Lautrec non, c'est son œil tout seul.
Son œil très inspiré par le quartier de Montmartre. On le disait, on va partir justement à Montmartre avec cette chanson que vous connaissez, signée Jean Renoir, La Complainte de la Butte, reprise par Bruel et Cabrel sur France Inter.
La lune, trop blême, pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune, trop rousse, de gloire éclabousse ton jupon plein de trous.
La lune, trop pâle, caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé.
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux.
Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin.
Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Mais sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit.
Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux.
Les ailes des moulins protègent les amoureux.
Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte,
la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune.
Mon rêve évanoui.
Escale estivale.
Autorisé atterrissage 36 vent 0,10 degrés 7.
Emmanuel Kérad.
Nous parlons de Toulouse-Lautrec ce soir sur France Inter avec Jean-Paul Morel. Alors Jean-Paul, Toulouse-Lautrec était considéré comme l'âme de Montmartre. Il dépeint la vie du Moulin Rouge, des autres cabarets alentours et des bordels aussi. Et du coup, il n'est pas considéré à sa juste valeur, ni les professionnels, ni par les professionnels, ni par le grand public. C'est-à-dire que lui, il a toujours rêvé de reconnaissance, mais il vendait très mal ses tableaux.
Ah oui, il ne vendait pas du tout. Ses dessins, tout ça, il les donnait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mal fou les retrouver. Mais oui, non, il est pas du tout considéré par la profession. Lui, enfin, il va être connu comme peintre, mais ce qu'il veut, c'est être le peintre de la vie, quoi. C'est de vivre ce qu'il peint et pas simplement de s'enfermer dans son atelier.
Et on dit d'ailleurs qu'il est caricaturiste. À un moment, on le classe comme caricaturiste parce qu'on ne sait pas vraiment où le placer. Et comme il travaille un peu pour la presse également, on lui donne cette image-là.
Oui, bon, il est dessinateur de presse. Il a fait une bonne centaine de dessins. Une partie d'ailleurs, c'est des dessins de spectacle. Des comptes rendus d'opéra, de pièces de théâtre. Mais faut pas oublier qu'à l'époque, tous les peintres, les peintres de cette génération, et prenons même les nabis, ils ont commencé avec affiches, dessins de presse, parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Mmh. Tout simplement.
Alors Toulouse-Lautrec est très proche des artistes, écrivains et musiciens de Montmartre, ceux qui ont d'ailleurs renoncé au Paris officiel, c'est-à-dire celui de la rive gauche avec ses intellectuels. Alors toutes ces personnalités-là s'autoproclament les modernes et ils veulent intensifier le rôle du café comme espace de création et de rencontre artistique, ce en quoi Toulouse-Lautrec se reconnaît pleinement, effectivement.
Ça oui, la vie intellectuelle où la vie parisienne a déménagé, disons, du quartier latin à Montmartre. Puis après la guerre, on sait, elle va redescendre à Montparnasse. Mais là, c'est effectivement la période Lautrec, là, 90-1900. C'est en pleine effervescence Montmartre. On fait des bals masqués qui font souvent scandale, comme le bal des Quasars, avec des dames qui se montent, elles, un tout petit peu trop nues. Alors, évidemment, le père Lapudeur est là pour sévir.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont dans la réalité quotidienne. À contrario, quand on voit des artistes comme Renoir ou Delacroix qui proposent un art plus académique autour de l'histoire de l'humanité, ces fameux modernes, ils préfèrent retranscrire leur propre réalité et leurs fantasmes, leurs envies, le divertissement.
Oui, on n'a plus besoin, surtout à la même époque, on n'attend plus la reconnaissance de l'Académie. Ce n'est plus elle qui décide, puisque, disons, en gros, l'État a décidé, depuis 1880, de se désengager du salon. Donc, qui fait la cote des peintres? Disons, c'est le public, c'est les galeries qui vont s'installer, dont, vous l'avez dit tout à l'heure, Ambroise Vollard, c'est eux qui vont plus ou moins déterminer la valeur des peintres.
Alors la musique est très présente dans l'œuvre de Toulouse-Lautrec. On entend en ce moment d'ailleurs un extrait musical de l'orchestre du Moulin Rouge de l'époque. Et dans chacun de ses dessins, il y a comme une musique ambiante, un peu à la manière des films muets sur lesquels on ajoutait comme cela une musique en guide de bande sonore. Et parmi les artistes qui ont marqué son œuvre, qui ont été importants dans sa vie, il y a le fameux Aristide Bruand, pour lequel il illustre des pochettes de disques, il fait des affiches.
Oui, ça a été un de ses grands, d'ailleurs, Bruand. S'est beaucoup servi, il a fait des multiples de ses affiches, en changeant les formats et tout, pour illustrer ses propres chansons. Oui, Bruand, c'est donc celui qui avait repris l'ancien...
Allez-y, oui, pardon.
C'est celui qui avait repris l'ancien Chat Noir, qui avait donc son propre cabaret, le Mirliton. Et effectivement, ça a été l'une des grandes attractions de Montmartre, Bruand, n'hésitant pas, on le sait, à insulter le public, et ça plaisait beaucoup.
Alors justement, on a retrouvé ça dans notre boîte à son, dans nos archives, Aristide Bruand dans ses petites scénettes réalistes qu'il met en au Mirliton, justement au tout début des années 1900.
Et maintenant, il est 2h, sortez les volets, rentrez la terrasse, et foutez les clients à la porte, ça coûte pas de temps le cul.
Ah non.
Oh de Dieu, voulez-vous foutre le camp, toi, sous l'eau?
C'est bon, ça va. Au revoir, Bruand.
Bonsoir, monsieur Bruand. Au revoir, tant de vous. Bonsoir à vous, punaise. Vous viendrez encore m'emmerder de ma soeur, n'est-ce pas? Tant de cochons.
Alors oui, effectivement, c'est un peu osé, en tout cas c'est un peu rentre-dedans pour l'époque. Et il faut savoir que dans ce fameux quartier de Montmartre, qui revendique déjà une quarantaine de lieux de divertissement au début des années 1900, il y a le Sacré-Cœur qui surplombe effectivement le quartier, comme aujourd'hui. Et à l'époque, il est non seulement le symbole de la religion, mais aussi du nationalisme d'extrême droite, c'est-à-dire l'antithèse de la liberté sociale et artistique voulue par les artistes de Montmartre. Comment le pseudo-aristo Toulouse Lautrec se positionne-t-il face à cela?
Non, mais tous les gens ont horreur du Sacré-Cœur à l'époque, puisque le Sacré-Cœur est construit pour venger la Commune. Ils sont évidemment, l'aristo. Bon, les idées politiques de Lautrec, on les connaît pas bien, mais disons que c'était plutôt un anard, quoi. Mais non, pour eux, le Sacré-Cœur, c'est une pâtisserie. Enfin, on trouve dans tout, il est carré. C'est un des objets préféré de la caricature, d'ailleurs. Mmh. Bon, je me signale que Sacré-Cœur, il sera fini qu'après la guerre 14. C'est-à-dire qu'il a coûté énormément cher. Les gens sont saignés pour payer...
À tous les sens du terme, ouais.
Effectivement, la musique qu'il y a au pied du Sacré-Cœur, c'est pas celle qu'on entend à l'intérieur.
Alors, à partir de 1897, la santé de Toulouse-Lautrec se détériore. Il est atteint de syphilis, rongé par l'alcoolisme. Il sera d'ailleurs enfermé dans une maison de santé à Neuilly pour une cure de désintoxication. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il produit sa série sur le cirque de mémoire. Hein. C'est-à-dire qu'il décide de se sortir. Enfin, en tout cas, il essaye puisqu'il mourra quand même à l'âge de 37 ans. C'est son œuvre, on dit, la plus aboutie. Et il dira, j'ai acheté ma liberté avec mes dessins.
Oui, c'était bon. Lautrec était surtout un expert en fabrication de cocktails. Et lui-même, dans ces cas-là, lorsqu'il était responsable du bar, il ne buvait pas, mais il saoulait tous les invités. à force de consommer l'absinthe, etc., il finit par devoir subir une cure des intoxications. Et pour prouver au toubib qu'il n'a pas pour autant perdu la tête, il fait de mémoire cette série du cirque, évidemment, alors sans aucun document, là. Et c'est assez extraordinaire, parce que il reconstitue les scènes de cirque, et elles sont d'autant plus émouvantes qu'il n'y a pas de public dans toutes les scènes. C'est un, disons, le cirque est vide. Il y a juste le numéro et puis les
artistes qui joueront finalement pour lui, comme ont pu le faire ces jeunes femmes.
Il est tout seul, c'est le seul spectateur en fait.
C'était le NRV France Inter plus de Toulouse-Lautrec, dernier épisode, Lautrec s'affiche. Lundi, changement total de point de vue. Il y a 4 ans, Paris et Saint-Denis étaient le théâtre d'attentats islamistes qui feront 130 victimes. Sarah Guibaudot, journaliste au service enquête justice de la rédaction de France Inter, a suivi l'enquête judiciaire qui vient de s'achever. Cette semaine, à la réalisation, c'était Stéphane Combe, préparation toujours Virginie Rouzic, à la technique Élise Christophe. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors à lundi.